qui. Et France 24 présente
Mardi politique.
Bonsoir, c'est l'heure de Mardi politique sur France 24 RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir Rosine, bonsoir à tous.
Ce soir nous recevons Julien Bayou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Alors le coronavirus prend de l'ampleur notamment en Europe avec l'Italie qui comme la Chine se coupe du monde, l'OMS craint une pandémie. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement français a la situation bien en main ?
Et je voudrais pas faire de polémique en fait à partir de d'un risque de pandémie. Je crois qu'il faut quand même d'abord essayer de rassurer un peu les Françaises et les Français, et puis insister sur le rôle de notre service public et des soignants, des médecins qui sont déjà sous pression depuis longtemps et qui vont voilà. C'est un peu dans ces situations-là qu'on se dit heureusement qu'on a un service public de qualité. Ouais. Et donc l'enjeu c'est d'être vigilant bien sûr, de sensibiliser au fait que les Françaises et les Français ne prennent pas de risques et qu'on puisse identifier les cas et les confiner.
En combattant tout de même la psychose.
Et voilà, c'est ça. Et rassurer tant que faire se peut sur les risques. Voilà. Mm. Mais j'insiste sur le fait qu'à nouveau, les médecins, les infirmiers, les infirmières vont être en première ligne, qui se battent depuis, si je pense aux urgences, depuis des mois et des mois pour alerter sur le fait qu'ils sont sous pression et qu'ils n'ont pas de moyens. Et aujourd'hui, on a besoin d'eux, comme hier et comme demain.
Mais justement, vous pensez que notre système de santé, que notre système hospitalier en particulier, qui est affecté en effet par une crise sociale qui dure, les démissions d'un certain nombre de chefs de service de leurs fonctions administratives, est-ce que cette désorganisation risque pas d'être préjudiciable à la gestion d'une éventuelle épidémie ?
Alors, il n'est pas affecté par une crise sociale, il est affecté par une crise de moyens. C'est-à-dire que vraiment,
transformé en crise sociale.
Oui, mais quand il s'est agi de trouver de l'argent pour les cliniques avec le crédit impôt compétitivité emploi, là, c'était bon. Et quand il manque 800 millions d'euros pour les hôpitaux, 1 milliard pour les hôpitaux, le gouvernement nous dit c'est pas possible. Donc c'est vraiment c'est du dogmatisme. Hein. C'est le fait de considérer les fonctionnaires comme des coûts qui conduit à ces difficultés. Et effectivement, il y a des surcharges administratives parce que tout simplement les directeurs, les directrices peuvent pas faire face. Donc je pense qu'ils sont en mesure de faire face à la crise, mais j'aimerais qu'on ait une pensée pour ces personnes qui vont littéralement être en première ligne, parce que quand on parle de risque de contagion, eh bien, ils sont elles aussi les premiers concernés.
Vous disiez pas de polémique, vous n'êtes pas de ceux qui reprochent à Agnès Buzyn d'avoir quitté son ministère de la Santé précisément en pleine crise du coronavirus et crise de l'hôpital.
Bah, chacun peut juger, oui, j'ai pas en rajouter. Je crois qu'elle disait qu'elle ne serait pas candidate peut-être 48 heures avant d'être candidate.
Ouais, enfin, elle disait qu'elle ne pouvait pas cumuler en fait.
Elle disait, moi je pense pas que j'irai la ville, la capitale, plus de 5 milliards de budget, s'improvise en 30 jours. Donc, je ne vais pas en rajouter, chacun peut être juge. L'enjeu, encore une fois, c'est que y a souvent une psychose alors qu'il s'agit d'une grippe sévère. Donc, les personnes qui ont des pathologies par ailleurs sont plus exposées, c'est vrai, il faut le dire. Mais il ne faut pas verser dans la psychose. Et j'entends notamment des personnes qui voudraient prospérer sur la crainte et qui voudraient qu'on ferme les frontières et autres. Il ne s'agit pas de basculer là-dedans et par contre d'adresser un salut et un remerciement à ces personnels de santé qui sont là.
Alors, samedi dernier, la centrale de Fessenheim fermait son premier réacteur. Le deuxième sera fermé dans quelques mois, je crois que c'est au mois de juin. Certains s'insurgent sur une décision qui est plus politique qu'écologique, même si cette centrale est vieille. Elle fonctionnait et elle était sûre et elle générait 2000 emplois.
Mais en fait, c'est une réelle victoire. C'est une victoire qui...
Est-ce que ce n'est pas une victoire idéologique, plutôt ?
Non, c'est une victoire politique et écologique. Le nucléaire, en fait, aujourd'hui, risque de faire que EDF fasse faillite. Il y a un mur d'investissement pour rénover, entre guillemets, les centrales, pour les mettre aux normes post-Fukushima, qui représentent 2, 3, 4 milliards d'euros par réacteur. Oui. Hein, donc on en compte 58. Donc vous pouvez faire le calcul, c'est plus de 100 milliards qui est demandé à EDF pour mettre à niveau ces centrales, qui sont au départ construites pour 30 ou 40 ans. Donc quand on les prolonge, C'est un peu comme une voiture. On peut pas la prolonger indéfiniment et ça coûte de plus en plus cher. Sauf que quand une voiture tombe en panne, elle s'arrête. Là, avec les centrales, vous pouvez pas prendre ce risque.
Ouais.
Vous avez également des coûts hallucinants sur la question des gestions des déchets. On parle de 35 à 50 milliards pour Bure. Et sans compter les,
dans la Meuse, ouais.
Les nouveaux EPR dont
on
vous
va mettre les déchets, oui, oui.
Les EPR, les réacteurs de génération. Ceux de Flamanville, celui de Flamanville qui n'est toujours pas fini,
oui.
le budget a triplé, ou ceux de Hinkley Point, qui vont produire une électricité beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chère que l'éolien ou le photovoltaïque. Donc c'est un choix d'investissement, et l'argent qui est bloqué dans le nucléaire ne peut pas être disponible pour la transition écolo. Et
alors il y a cet aspect-là,
c'est une belle solution,
on va en reparler,
une belle nouvelle que cette fermeture de réacteur, à condition bien sûr qu'on puisse investir l'argent qu'on va économiser dans les renouvelables ou dans la rénovation thermique.
Alors c'est vrai que le nucléaire, ça pose un problème pour, vous l'avez évoqué, des déchets qui vont être, d'ailleurs, il y a ce site hein,
oui,
à Bure,
enfouissement des déchets.
Dans la Meuse, hein, je crois qu'ils mettent 1000 ans à disparaître. En revanche, le nucléaire ne produit pas de CO2. Et entre guillemets, même si ça vous fait bondir, le nucléaire, c'est une énergie propre. Est-ce qu'il n'y a pas un moment de se dire bah, le nucléaire, c'est pas si con?
Alors, sur les déchets, vraiment, c'est important parce que la durée de vie de ces déchets, elle est supérieure à la distance qui nous sépare de l'écriture. Vous voyez, donc, l'écriture, c'est il y a 5000 ans. Et la durée de vie de ces déchets, c'est 5, 10, 15, 50 000. Donc, vous voyez qu'on ne sait pas dans quelle langue écrire attention danger. C'est-à-dire que c'est vraiment vertigineux. On joue vraiment aux apprentis sorciers, on manipule.
Je crois que c'était 1000 ans les déchets. Vous dites c'est plus.
Ça peut être beaucoup plus. Il y en a jusqu'à 100 000 ans. Qu'on ne sait pas. Alors, on sait les stocker, mais vous voyez qu'on ne sait pas vraiment les gérer. Donc, c'est pas anodin et quand on ne sait pas faire, il faut s'abstenir. Sur la question du climat, l'ADEME est un peu plus réservé parce que l'agence sur l'énergie et le climat, parce que le nucléaire émet est source d'émissions de gaz à effet de serre, ce qui est le plus écolo, c'est le photovoltaïque et l'éolien. Alors, et encore une fois, quand on investit 10 milliards d'euros dans le nucléaire, et bien ces 10 milliards, ils manquent pour la recherche et développement ou pour l'investissement dans le photovoltaïque ou l'éolien.
Julien Bayou, les écologistes, et parmi lesquels Europe Écologie Les Verts, citent régulièrement les experts du GIEC pour alerter sur le dérèglement climatique. Or, les experts du GIEC disent, je les cite, hein, qu'en l'absence durable de moyens de stockage de masse de l'électricité, le nucléaire sera la seule source d'énergie capable dans les décennies à venir de contribuer à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Donc les experts du GIEC disent, le nucléaire c'est formidable, c'est ça qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Attendez, là on parle d'une centrale qui était à 40 ans.
Oui,
et l'enjeu c'était, est-ce qu'on
l'a dépassé? Oui, oui,
d'accord.
Non, mais maintenant on l'a dépassé.
Non, c'est pas ça, c'est que...
Vous remettez tout le nucléaire en cause. Le GIEC dit, bah, écoutez, pour l'instant, on n'a pas mieux.
Non, en fait, on est sur le même timing. C'est-à-dire que nous disons, il ne faut pas arrêter aujourd'hui d'un coup tous les centrales. Personne ne dit ça, en fait. On est souvent caricaturé comme ça. Nous disons, il faut acter le fait que les centrales ont une vie, obsolescence, et qu'il faut sortir en fonction des
Mais votre objectif, c'est quand même la sortie totale du nucléaire,
bien
à
sûr,
terme.
Bien sûr, mais à 25 ou 30 ans. Vous avez des centrales qui posent problème. Celle du Tricastin, par exemple, dont la cuve est fissurée. Celle de Fessenheim, c'est la doyenne, qui est encore active. Elle est sur une zone sismique, au-dessus d'une nappe phréatique, en zone inondable. Les voisins tout autour nous disent « arrêtez, s'il vous plaît ». Bon, il faut en finir. Ce que nous reprochons au gouvernement, c'est de ne pas assurer l'accompagnement social de ces 2000 salariés.
Sur le renouvelable, c'est pour l'instant une énergie intermittente, on est d'accord?
Le nucléaire aussi s'arrête.
Ils
fonctionnent. Faire hurler les produits nucléaires. La centrale de Fessenheim était régulièrement arrêtée parce que en maintenance.
Oui, mais enfin le courant, d'une manière ou d'une autre.
On arrive à 75 ou 80% maintenant pour les éoliennes et on pourra progresser encore. L'enjeu, c'est la recherche et développement.
Là, si on regarde aujourd'hui les chiffres, dans le mix énergétique, la production de courant, 8% pour les renouvelables, l'électricité avec le solaire et l'éolien. Avouez
plus,
que c'est
un peu plus avec l'hydraulique.
Ouais,
mais l'enjeu, c'est de progresser.
Je crois que c'est 11%.
Il ne s'agit pas de réfléchir en statique. Il s'agit d'avoir un plan à 30 ans. Et donc, ces centrales, nous disons, s'il s'agit d'investir 150 ou 200 milliards d'euros dans le nucléaire, nous disons non, c'est une folie, ça va planter EDF. Le nucléaire, et c'est pas moi qui le dis, c'est le Picmal, l'ancien directeur financier d'EDF, qui a démissionné en disant ces EPR de Hinkley Point, c'est en Angleterre, c'est une folie, je ne peux pas assumer. C'est beaucoup plus économique d'investir dans les énergies renouvelables, qui créent d'ailleurs plus d'emplois. Et l'autre aspect, c'est la réduction de la consommation.
Alors c'est quoi, quand vous dites renouvelable, pardon, mais...
C'est le photovoltaïque et l'éolien.
Quand vous n'avez pas de vent et pas de soleil.
Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne.
D'accord.
Parce que, en fait, on atteint 70%, y compris quand il y a peu de vent. Et par ailleurs, c'est aussi un beau projet européen que de relancer. Vous savez, l'Europe s'est construite au départ, avant le traité de Rome, par la CECA, la Communauté urbaine de charbon et de l'acier. C'était vraiment les sources d'énergie. Mmh. Et les pays qui venaient de se battre pendant la Deuxième Guerre mondiale faisaient ensemble et mettaient en commun, articulaient leur production. On pourrait tout à fait refaire à nouveau cette nouvelle communauté de l'énergie, mais en se concentrant sur les renouvelables. Vous avez, pour caricaturer, le soleil au sud, en Espagne, au Portugal, le vent au nord, la France qui a le privilège d'avoir les deux situations, et de fait d'articuler et de pouvoir avoir un véritable réseau de résilience et d'être ainsi moins dépendant de l'Arabie Saoudite ou de la Russie. C'est aussi une question, quand on bascule sur les énergies renouvelables, c'est aussi une question d'indépendance stratégique.
Julien Bayou, le photovoltaïque et l'éolien, c'est moche.
Parce que le nucléaire, c'est très très bon.
Non, mais c'est très vilain.
On n'a pas les mêmes.
Et tous les riverains le disent et en subissent les nuisances, mais parfois sonores, toujours visuelles.
Parce que moi, les pylônes,
la
Garrigue,
question est simple.
Super.
Est-ce que chez les écologistes, la beauté des paysages n'est pas prise en considération et qu'on est simplement rationaliste en se disant il faut de l'énergie propre, tant pis.
Bien sûr.
Mais c'est moche, enfin, tout de même, non?
Mais attendez, les pylônes qui défigurent les champs, les garrigues et autres.
Vous parlez de quoi, la ligne à haute
tension? Oui, les lignes.
C'est moche aussi.
C'est moche aussi,
mais
voilà.
Je n'ai pas dit le contraire.
Non, mais si, parce qu'en général.
Il s'agit de remplacer, on peut essayer de remplacer du moche par du moins moche.
Non, le problème, c'est qu'en général, ceux qui agitent cette affaire de beauté des paysages l'agitent pas du tout par rapport au nucléaire. Vous voyez? C'est souvent, il faut le dire, il faut le reconnaître, alimenté en sous-main par des gens qui voudraient le statu quo. Donc l'enjeu, c'est de les éloigner des parcs nationaux.
Je ne fais pas partie du lobby nucléaire.
Effectivement, par rapport à des zones protégées, bien sûr, mais c'est déjà le cas. Donc dire qu'une éolienne défigure le paysage, non. Ça
non, mais les gens ne veulent pas de ça en face de leur jardin.
C'est pour ça qu'il y a des limites. Il y a des limites. Oui. Hein, on ne peut pas le mettre en bas de chez vous. Voilà,
alors,
simplement.
Je voudrais qu'on parle.
D'un mot rapidement.
Clairement, souvent, c'est un lobbying de droite, il faut le dire. C'est des sénateurs et des sénatrices de droite qui proposent ces amendements tout simplement pour que rien ne change. Ouais. Si rien ne change, EDF risque la faillite, les employés d'EDF risquent d'être à la porte et nous risquons d'avoir une électricité beaucoup, beaucoup plus chère. Parce qu'aujourd'hui, Hinkley Point, c'est 109 euros le mégawattheure. Et avec du photovoltaïque ou l'éolien, on est sur 2 à 3 fois moins cher.
Bon, allez, passons à autre chose.
Oui. Alors, Europe
Écologie. C'est sûr que sur le nucléaire, évidemment.
Non, mais on aurait pu, effectivement. Mais si on a le temps de parler du salon d'agriculture, parce que vous en revenez. Mais je voudrais pas louper cette question sur les municipales. Europe Écologie Les Verts a fait un excellent score aux européennes. Avec qui vous allez vous allier? Est-ce que, aux municipales, vous pourriez vous allier avec la droite où vous dites l'écologie, l'Europe écologie, ça reste un parti de gauche?
Nous sommes écologistes. Donc nous allons faire des scores, j'espère, très hauts. Ça dépend des électeurs et des électrices. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est porté par le succès des européennes et puis aussi par une prise de conscience très forte de la population.
Oui.
Et aussi parce que les gens voient le dérèglement climatique.
Vous pouvez faire des accords avec la droite?
A priori, la droite, elle est anti-écologique. Parce que la droite, par principe, elle est productiviste. Mmh. Quelle que soit l'activité, c'est bien. Si c'est des centres commerciaux, si c'est l'artificialisation des sols, si c'est soutenir plutôt Amazon que le libraire, vous voyez, ça dépend localement, il peut y avoir des exceptions. Mais
caricatural de dire la droite n'est pas écologiste?
Non. Écoutez, on a eu des gouvernements de droite, on a bien constaté que ça n'a pas fonctionné. En 2002, Jacques Chirac avait poussé un cri d'alarme.
Oui, mais vous avez peut-être contribué aujourd'hui à une prise de conscience qui est plus partagée désormais, non?
Eh oui, tout à fait.
Vous pouvez faire éventuellement crédit à la droite d'être devenu sincèrement écologiste.
Mais pour l'instant, on ne peut pas le constater.
Pour l'instant, la droite est-elle au pouvoir?
Pour l'instant, oui. Elle est au pouvoir, c'est La République en marche, et ça n'avance pas. Et par ailleurs, le Sénat qui est de droite bloque encore plus toute avancée sur les questions de conditions animales, on se retrouve face à la droite.
Donc dans les villes,
sur les questions de réorientation de la politique agricole commune, qui nous avons en face ? Le gouvernement français.
Je dis un Bayou, dans les villes où LREM, où, pardon, Europe Écologie Les Verts est en tête aujourd'hui, mais avec en deuxième position LR ou LREM. C'est le cas par exemple à Strasbourg, c'est le cas à Tours.
À Strasbourg,
il n'y aura pas d'alliance ?
À Strasbourg, j'espère que nous allons gagner. Si effectivement Jeanne Barzéguian continue sur cette dynamique, moi j'y étais la semaine dernière, elle peut arriver en tête au premier tour et en tête au second. Et nous travaillerons avec toutes celles et ceux qui disent l'écologie, c'est notre priorité. Et là, je peux vous donner crédit, il y a effectivement des personnes qui ont pu historiquement voter à droite, qui aujourd'hui se disent très sincèrement, là, il faut effectivement changer de modèle. Et ces personnes-là, nous pouvons travailler avec elles.
Alors, vous revenez du salon de l'agriculture, un passage obligé des politiques et des chefs de parti dont vous faites partie.
C'est un moment très important.
Les agriculteurs et vous, c'est pas le grand amour. Comment ils vous ont accueilli ?
On a été bien accueillis, y compris par la FNSEA, avec qui est un syndicat exploitant agricole, avec qui des fois nous avons de gros désaccords. Mais je pense qu'aujourd'hui, le temps où les agriculteurs essayaient de contester le dérèglement climatique, il est fini. D'ailleurs, en fait, les agriculteurs sont en première ligne. C'est eux qui constatent, les cerisiers sont en fleurs avec un mois d'avance. Ouais. Les agriculteurs sont bien placés, malheureusement, pour voir que le dérèglement climatique est engagé. Si demain, malheureusement, il y a des gelées, ce sont les viticulteurs qui en subiront les frais parce que le printemps aura été trop précoce. Donc sur tous ces sujets, les agriculteurs sont les vigies, en fait, du dérèglement climatique. Et donc aujourd'hui, je discutais avec Christiane Lambert, qui a priori est la présidente de la FNSEA, nous dit... On n'est pas d'accord, évidemment. Mais elle dit nous sommes à la fois une cause du dérèglement climatique, parce que l'agriculture, elle émet du CO2, des émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi des victimes, et ça, nous sommes absolument d'accord. Et c'est aussi une partie de la solution, parce qu'on a besoin des agriculteurs pour réaliser la transition écolo. Quand on pense aux agriculteurs, on pense souvent aux personnes qui nous nourrissent, mais ce n'est pas juste des machines à produire des aliments. C'est aussi des personnes qui, en travaillant les haies, en protégeant la biodiversité, en protégeant aussi l'aménagement du territoire et les services publics.
Il nous reste peu de temps.
Protègent nos territoires.
Dans une France idéale, quelle proportion y aurait-il d'agriculteurs bio ? Aujourd'hui, on est autour de 8%, je crois, 8-10%.
Mais en vrai, on appelle l'agriculture bio, mais on devrait appeler l'agriculture conventionnelle chimique. Et nous, on pense que l'agriculture, elle devrait être bio. 100%. L'agroécologie. Donc on pourrait en discuter de ces 100% effectivement avec la filière ce matin. On peut obtenir 30% en 2030 à condition de mettre des moyens pour accompagner les agriculteurs. Vous savez, il y a une énorme demande de bio en aval chez le consommateur. Les agriculteurs sont en train de faire le passage et c'est à l'État d'organiser cet accompagnement.
Merci.
Merci beaucoup, Julien Bayou. Et merci à Charlotte Orient-Tomaca et à Camille Néron d'avoir préparé cette émission. Et merci à toute l'équipe technique. Et on se retrouve très vite sur France 24 et RFI. Frédéric, on vous retrouve le matin à
7h50.
Voilà. Merci.
Bonne soirée.
Rendez-vous est pris. Au revoir.
Appel sur l'actualité. Prenez la parole.